Radio Kapi.
À la présentation, patience, Ngalula Banangi. Merci de porter votre choix sur Radio Kapi pour vous informer. D'abord les titres. Présentation hier à Goma des 5 présumés bandits arrêtés dans le cadre de l'opération Safi Chanjiu à Goma. Entendez, nettoyer la ville de Goma. Depuis le lancement de cette opération en avril de cette année, plus de 200 présumés criminels ont été arrêtés. Suspicion de détournement de 3 millions de dollars par quelques anciens membres du bureau du Sénat. Les ministres de la Justice et garde des Sceaux instruisent la police judiciaire des parquets de diligenter en urgence une enquête judiciaire. Il s'agit d'un communiqué de son cabinet publié hier à Kinshasa. L'invité de ce journal est Jean Moreau Toubibou, animateur des noyaux des bases au sein du groupe Jérémy Abukavu au Sud Kivu. Il propose des solutions pour lutter contre les multiples cas d'incendie devenus endémiques dans la ville de Bukavu. Bonjour à toutes et à tous. Au Nord Kivu, la solution aux défis sécuritaires est encore loin d'être assurée dans la ville de Goma. Les maires de la ville reconnaissent ces faits alors qu'ont été présentés hier samedi 5 autres présumés bandits arrêtés dans le cadre de l'opération Safi Chanjiu à Goma, entendez nettoyer la ville de Goma. Depuis le lancement de cette opération en avril de cette année, plus de 200 présumés criminels ont été arrêtés. Bernardin Nyangi.
Les 5 présumés bandits, un énième groupe à être présenté à la presse, appartiennent à au moins 3 gangs différents, affirme le sous-lieutenant Olivier Sadiki de la 34e région militaire.
Monsieur Nzitongo Richard, déserteur du mouvement APCLS, il avait reçu une mission d'aller assassiner SRT Heshima. Madame Evelyne Mwavita, il avait 3 bandits qui s'avaient braqué un propriétaire de la boutique. Et c'est là qu'on a retrouvé l'arme que vous voyez ici.
Cette opération intervient alors que les 6 derniers jours, encore une dizaine d'incidents criminels ont été signalés dans la ville de Goma et ses environs, ce qui fait reconnaître par le maire de la ville que le défi reste majeur. Le commissaire supérieur principal, Faustin Capin de Kamand.
C'est chaque semaine que nous arrêtons les bandits à main armée, desserrés aux instances judiciaires. Même les bandits qui ont cambriolé ce matin au quartier Indi, les renseignements ont circulé et les résultats sont là.
Plus de 200 présumés criminels ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette opération conjointe entre la 34e région militaire et le conseil urbain de sécurité de la ville de Goma. C'est en réponse à la hausse de la criminalité dans la ville et dans le territoire voisin de Nyiragongo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, la société civile de la ville de Beni appelle la population à mettre fin à la pratique des vindictes populaires et à ne pas s'attaquer aux biens des particuliers à Beni, Boutembou et Lubero. Cette structure citoyenne joint sa voix à celle d'autres organisations et notables de la région en ces moments où des groupes de jeunes s'en prennent aux individus et à leurs biens depuis l'occupation par les rebelles du 1-23 de certaines cités du territoire de Lubero. Dans une déclaration publiée samedi, la société civile de Beni parle d'actes qui favorisent les jeux de l'ennemi. On écoute son président Pépin Kavota dans ses propos recueillis par Martial Papi Mukeba.
Très chers tous, ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi sans le savoir. Nous ne devons pas oublier que parmi les richesses de notre patrie, nous avons aussi les différentes tribus qui la constituent. Soyons unis et dénichons les suspects auprès des services étatiques. Vu la situation sécuritaire très critique dans nos entités respectives, nous avons l'obligation de rester unis et solidaires à vue d'une résilience réussie et surtout ne cédons pas aux manipulations et à la haine distillée savamment par l'ennemi pour gagner du terrain. Les communications qui circulent sur les réseaux sociaux il y a peu et leur cohorte de dramatisation risquerait de nous diviser inutilement. Nous devons nous interdire, très chers tous, de nous attaquer aux humanitaires, aux personnes et à leurs biens, mais aussi et surtout aux FRDC.
Restons dans la ville de Beni. Une quinzaine de jeunes leaders des villes de Beni et Butembo, ainsi que des territoires de Beni et Lubero, sont formés ce samedi à la lutte contre la désinformation. Cette sensibilisation est organisée par une nouvelle structure des jeunes de la ville de Beni, appelée Génération Capable, en collaboration avec la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO Beni. Elle a pour objectif de former ces jeunes à la lutte contre la propagation des fausses informations à travers les réseaux sociaux afin qu'à leur tour, ils sensibilisent leurs pairs au danger de ces fléaux. Martial Papimoukeba pour les détails.
Cette formation intervient pendant que des jeunes s'attaquent aux particuliers et à l'air bien depuis plus d'une semaine à Butembo et Lubero. Le coordonnateur national de l'ONG Génération Capable parle d'actes causés par la désinformation et les fausses rumeurs, d'où la nécessité de former des jeunes capables de sensibiliser la communauté au danger de ces fléaux. Samuel Don Sekanabo explique.
Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Grand Nord découle de la désinformation. Les jeunes que nous sommes en train de former sont des jeunes leaders. Ils ont des contacts directs avec les communautés et ça va nous permettre d'atteindre directement nos cibles.
Diana Mwalinumbi affirme que cette formation va aider à lutter contre la manipulation de la population à travers la désinformation.
Moi, je viens de savoir qu'une information, il faut d'abord que je vérifie sa source. Et si je trouve que cette information-là, qu'elle n'a pas de source pour m'affirmer que c'est vraiment une information vraie, je ne dois pas publier du n'importe quoi. Parce que cette désinformation-là va amener la population à se révolter, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça la vraie information.
Les jeunes leaders formés vont à leur tour mener des campagnes de bouche à l'oreille et à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser au danger de la désinformation dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, instruit la police judiciaire des parquets de diligenter en urgence une enquête judiciaire sur les soupçons de détournement de 3 millions de dollars de quelques anciens membres du bureau du Sénat. Ceci ressort d'un communiqué du cabinet rendu public ce samedi 6 juillet. Faisant écho de cette recommandation, ACAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice, demande l'émission d'une prescription d'interdiction de quitter le territoire national contre toutes les personnes impliquées. Les détails avec Étienne Lissoumbo.
Cette instruction du ministère a pour but d'établir, les cas échéants, les responsabilités des uns et des autres, souligne ses communiqués. En effet, l'ancien président du bureau du Sénat, dans une lettre signée le 1er juillet dernier, Sangoma Tomongonde accuse le bureau provisoire d'être à la base d'un présumé détournement de 8 milliards 92 millions de francs congolais, soit 3 millions de dollars au sein du bureau du Sénat. À la suite de ces accusations, l'inspection générale des finances est saisie afin de constater ces malversations. Le président du bureau provisoire pour sa part, rejette en bloc toutes ces allégations de l'ancien bureau sur le présumé détournement à travers un communiqué, en soulignant que cette campagne élaborée par des officines obscures dont l'objectif est de ternir l'image, répliquer les communiqués. Pascal Kindoello affirme n'avoir trouvé aucun dollar dans les caisses. Il a hérité jusqu'à 3 millions de dettes du bureau sortant. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, à travers un communiqué rendu public le 5 juillet, recommande une enquête sur les faits imputés aux membres du bureau provisoire ainsi que l'ancien bureau qui était dirigé par Modeste Bahati Lukwebo, soulignant que depuis le vendredi 5 juillet, le bureau provisoire du Sénat a mis en place une commission ad hoc pour éclairer les supposées allégations de Sangoma Temongonde.
Quittons Kinshasa pour Maniema. La Fédération provinciale du Mouvement social pour les renouveaux, MSR Maniema, appelle à l'implication du chef de l'État congolais dans l'affaire des détournements des fonds alloués au projet des forages et lampadaires à Kinshasa. Dans une sortie médiatique ce samedi 6 juillet, le secrétaire exécutif fédéral du MSR Maniema plaide pour l'équité de la justice congolaise tout en exigeant la mise en liberté provisoire de François Rubota Masumbuko en attendant les retours au pays de l'ancien ministre des Finances, acteur principal selon eux dans cette affaire. On écoute Yuma Busangu, grand format, secrétaire fédéral du MSR Maniema, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La fédération du MCR Maniema se sent offusquée et estomaquée par une justice variante et à double vitesse, utilisant notre autorité morale comme matériel didactique dans un état de droit qui tarde à produire ses effets. Par ailleurs, l'évidence de l'existence d'une correspondance du ministre honoraire du développement rural demandant la surséance des décaissements par l'excellence ministre des Finances auprès des prestataires, tant que le résultat attendu n'était pas atteint, ne fait plus de lui l'incriminé principal dans cette affaire. Dès lors, le ministre honoraire du développement rural n'avait plus jamais été consulté par l'excellence ministre des Finances dans les opérations de décaissement. Tenant compte de ça, la fédération du MCR Maniema demande aux instances politiques, judiciaires et sécuritaires la relaxation du ministre honoraire François Roubota Masumbuko par sa mise en liberté provisoire en attendant le retour à tout moment de l'excellence ministre des Finances Nicolas Kazadi.
Dans la province de la Tchopo, les Frivao fixent l'opinion sur les processus d'indemnisation des victimes des guerres. Ils évoluent normalement. La première vague des bénéficiaires ont vu leur compte bancaire être alimenté par la Robank. Ces précisions ont été fournies par la secrétaire rapporteure du Frivao, Mimi Mopunga, au cours d'un point de presse qu'elle a animé hier au siège de cette institution à Kisangani. Cependant, elle a regretté que certaines personnes ayant accompagné les victimes cherchent à s'immiscer dans les affaires qui ne les concernent pas directement. Elle leur demande de laisser les victimes éligibles et toucher leur indemnisation en toute quiétude. Quant aux supposées victimes qui se sentent lésées, qu'elles puissent s'adresser au Frivao. Mimi Mopunga, secrétaire rapporteur du Frivao, dans ses propos recueillis par Jacques Mokonkole.
Ils ont bien sûr accompagné les victimes pendant 23 ans d'IRA pour qu'ils puissent être indemnisés. Maintenant qu'on est à la phase, les gens touchent déjà quelque chose. Je pense que leur mission devait se limiter à ce niveau-là pour laisser maintenant aux victimes de toucher calmement leur indemnisation. Il n'y a pas la raison d'être, de créer encore les mouvements, des marchés, des revendications. Ils y revendiquent quoi? Puisque le décret dit qu'on doit payer que le vrai victime. Et si vous n'êtes pas victime, vous n'avez pas droit à bénéficier. Vous allez bénéficier peut-être de l'indemnisation collective. Là où c'est pour toute la population de Kisangani qui est traumatisée, qui a subi les effets de la guerre. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous serez bénéficiaire. Mais pour l'indemnisation individuelle, c'est seulement les gens ayant rempli les critères. Et puis, on ouvre encore une porte pour ceux qui pensent que leur dossier a été rejeté à tort. Ils n'ont qu'à introduire des recours. Leur fichier là, c'était pas devant les OPJ, c'était devant des agents des Frivao.
Au Kasaï oriental, perturbation ce samedi dans la fourniture de l'énergie électrique en Mbujimayi. C'est suite aux manifestations organisées à l'entrée principale de la centrale hydroélectrique de Tchala par les femmes et les enfants des travailleurs de la société énergie du Kasaï, Enerka, pour réclamer les paiements des salaires des agents. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les enfants et les femmes des agents de l'entreprise énergétique du Kasaï Enerka qui commercialise en Mbujimayi le courant électrique ont barricadé ce vendredi l'entrée principale de la centrale hydroélectrique de Tchala avec des troncs d'arbres et des pierres. Les agents qui avaient passé la nuit à la centrale ne pouvaient pas sortir des installations. Ces manifestants réclament le paiement des salaires de leurs maris pour certains et les enfants exigent pour leur père. Contactez les directeurs généraux de NRK dit avoir dépêché une équipe sur place pour échanger avec les manifestants et les responsables de la firme tchèque Seco RDC qui a récemment signé le contrat avec NRK pour la réhabilitation et l'augmentation de la puissance de l'énergie. D'après certaines indiscrétions, cette firme n'a pas payé tous les agents de NRK, ce qui constitue une violation des clauses de contrat. Tous nos efforts pour joindre les responsables de cette firme tchèque se sont avérés vains. Mais déjà, le mécontentement des enfants et des femmes des agents NRK ont perturbé ce vendredi la fourniture en énergie électrique sur la ville de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
À Bounia, les taxis sont en vogue depuis environ 2 semaines au chef-lieu de la province de l'Ituri. Après plusieurs années des tergiversations des opérateurs économiques, ces derniers faisaient face à la résistance des taximens motos par peur des concurrences. Les habitants de Bounia, qui avaient de la peine à trouver des motos pour des longues distances et étaient souvent victimes d'accidents, s'en réjouissent. Reportage de Aminata Moussaïdi Ziki Tambala.
Des dizaines de taxis-voitures sont déjà opérationnelles à Bounia pour desservir les différents quartiers de la ville qui s'est étendue sur environ 10 km, ce qui présente plusieurs avantages pour la population. Éviter la poussière et les intempéries, les accidents qui étaient fréquents sur les motos, garantir la sécurité et aussi les prix préférentiels. Certains habitants expriment leur satisfaction.
Je suis très ravie. Le taxi était cher. D'ici, on va à Lengabo. Il n'y a pas problème de poussière, on va très bien. La population s'habitue. Sauf d'autres coins. Mais nous, de Lengabo, de Lé et Woro, on est déjà habitués. Une personne paye 1000 francs seulement partout où tu vas.
Cependant, certains chauffeurs disent faire l'objet des menaces de taximens moto qui ont perdu de nombreux clients dans les quartiers éloignés de la ville et qui généraient beaucoup de recettes. Héritier Kambale Mouviri, vice-président de la compagnie qui regroupe ces taxibus.
Certains tronçons ont encore des difficultés. Lorsque tu arrives avec un véhicule, ils disent qu'on vient leur voler l'argent et disent qu'ils vont brûler nos véhicules. Nous demandons au gouvernement de mettre à garde les chefs des taximens des motos qu'ils cessent de nous menacer.
La circulation des taxis-voitures permet également de résorber le chômage des jeunes à Bounia. Bounia, Aminata Moussaïdi Ziki Tambala, Radio Okapi.
Sans plus tarder, rendons-nous à Bukavu, où des cas d'incendie se sont encore produits simultanément hier dans 3 quartiers différents des communes de Kadutu et Ibanda. À Muungu d'abord, au quartier Ndendere et ensuite au quartier Nkafu et Kasali dans la commune de Kadutu. Les bilans provisoires fait état d'une personne blessée lors de sa tentative d'éteindre le feu. Le nombre des maisons brûlées avoisine en tout 50. Ces phénomènes d'incendie dans la ville de Bukavu dépassent l'imagination. D'aucuns évoquent les problèmes des constructions anarchiques, mais d'autres encore développent l'hypothèse des incendies à caractère criminel. Il ne se passe plus de 2 jours sans qu'on enregistre un cas d'incendie qui souvent embrase des avenues entières.
Actualité internationale.
Un week-end avec 2 sommets en Afrique de l'Ouest, un sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, hier samedi 6 juillet à Niamey et un sommet de la CEDEAO ce dimanche à Abuja. 2 sommets qui illustrent une cassure sans précédent au sein de la région depuis l'annonce simultanée en janvier dernier du départ des 3 pays du Sahel central, Mali, Burkina Faso et Niger de la CEDEAO.
L'invité.
Que faut-il faire pour éviter les multiples cas d'incendie devenus endémiques dans la ville de Bukavu? Jean Moreau Toubibou, animateur des noyaux des bases au sein du groupe Jérémy, recommande aux tenants du pouvoir de matérialiser les plans d'urbanisation de la ville. Des plans élaborés par des fils et filles de la province du Sud Kivu, nourris d'une expérience avérée en architecture. Des architectes qui ont contribué brillamment à urbaniser nombreuses villes sous d'autres cieux. Jean Moreau Toubibou s'entretient avec Jean Kassami.
Jean Moreau Toubibou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Parmi les maux qui rongent actuellement la ville de Bukavu, ce sont des cas d'incendie en répétition. Est-ce que ce phénomène peut être évité?
Il y a moyen de l'éviter, pas complètement, mais de réduire la fréquence des incendies. Ce qui nous fait peur, c'est que maintenant, ça n'a plus de saison. Même pendant les saisons de pluie, il y a d'incendies à Bukavu et ça ravage beaucoup de maisons. La ville, telle que traditionnellement construite par les colons, est entourée maintenant par une cité tentaculaire. Ça veut dire des cabanes en planches mal ordonnées. Une personne humaine ne sait pas passer entre 2 maisons. Et c'est ça qui fait des problèmes. On peut éviter qu'on ne puisse pas laisser les gens squatter certains espaces publics. On trouve qu'une nuit, un soir comme ça, un groupe de gens saute sur un espace et commence à construire le lendemain matin. Tout est fait déjà. Ce qui est curieux, ces gens ont des papiers. Et que donc, les espaces verts dans la ville de Bukavu, pour le moment, il n'y en a plus. On a même ce côté des terrains de jeu, beaucoup, quoi, les terrains de Dendere. Tout est parti, même à l'Athénée, un terrain de basket est en train d'être saucissonné. Le second moyen pour réduire cela, dès qu'il y a un cas d'incendie, refuser à ces gens de reconstruire sur le même lieu. En prenant soin l'État lui-même trace des avenues et se dit, sur cet espace, il ne peut y avoir que autant de maisons. L'autre solution serait que l'État puisse ouvrir un nouveau lotissement à une douzaine de kilomètres de la ville traditionnelle de Bukavu, et je pense à certains axes comme Mudaka, Kavumu, Nyantende, Walungu, même des espaces de Chirunga, Kabare là-bas.
Jean Moro Toubibou, chaque ville dispose d'un plan d'urbanisation. D'aucuns se posent la question de savoir si réellement la ville de Bukavu, elle aussi dispose d'un plan d'urbanisation.
La ville de Bukavu possède plus d'un plan d'urbanisation, peut-être une dizaine. Mes propres élèves au secondaire et mes propres étudiants au niveau de l'université, qui sont des architectes, qui sont des ingénieurs, qui ont fait des études réellement d'urbanisme, ils m'ont montré des plans. Certains de ces plans ont été acceptés par les autorités, mais le moyen de concrétiser ces plans ont été évités. Chaque autorité qui arrive amène ses idées dans la tête, il n'y a pas continuité de l'action administrative, et c'est ça qui fait que nous aboutissons maintenant à ce genre de problèmes où on commence à courir derrière les événements. Pourtant, il y a moyen de prévenir et que donc que l'autorité prenne une décision courageuse de créer d'abord un nouveau lotissement, de déplacer.
Alors, peut-on dire que c'est le moyen qui fait défaut ou c'est la volonté politique qui manque?
Je crois la volonté politique. Si l'autorité décidait d'un lotissement quelque part et qu'ils disent aux entrepreneurs qui sont dans la ville, construisez des bâtiments qu'on appelle des logements sociaux. Celui qui entre dans ces bâtiments sera votre locataire. Je ne sais pas qui pourrait refuser, puisque maintenant ils sont en train de construire des immeubles ici, avec des salles de fête, des dépôts commerciaux. Là où on trouve 4, 6, 5, 7 étages. Mais avec des maisons basses, on construirait des quartiers avec cet argent.
Alors, dans ces cas-là, les coûts d'envoi seraient donnés à partir de Kinshasa ou à partir de la province?
À partir de la province. J'ai été, par exemple, à Kolwezi, la province de Lualaba. Je vis qu'on veut déplacer la ville. Là-bas, ce ne sont pas des incendies, ce ne sont pas des érosions. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est que presque sur 3 maisons, sous la maison, il y a des minéraux là-bas. Alors on a dit, on va déplacer maintenant la ville. Et la maman gouverneure, Fifi Masoka, je m'excuse de citer son nom ici, mais elle a déjà commencé, il y a ce qu'on appelle la ville du futur de Kolwezi, à une vingtaine, trentaine de kilomètres. Moi, je crois qu'il y a moyen que le gouverneur, dans les échanges entre les provinces, entre les gouverneurs des provinces, qu'il puisse aller là-bas voir ce que cette dame est en train de faire. C'est vrai qu'elle a beaucoup plus de moyens que nous, mais ici, on n'a qu'à exiger à toutes ces compagnies chinoises qui exploitent des minéraux ici, il y a moyen de commencer le fisc, faire un premier pas, la première ville du futur de la province ou de la ville de Bukavu.
Jean Moro Toubibou, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima. Mise en onde signée Alain Goy, à la présentation Patience Ngalula Mbombo. Merci de nous avoir prêté oreille attentive.